Bon.
En direct.
Oh, de quoi?
Avec JC et Patricia.
Radio X.
On est là, ça continue à brasser énormément dans le monde et il y a des choses qui sont toujours difficiles à comprendre parce que tout ça, évidemment, est mené par la politique et les politiciens qui peuvent, puis on en parle souvent à tous les paliers et c'est pas différent à l'étranger. Alors que pendant des mois et des mois, le président Trump a dit qu'il était bien fâché après avec notre rapprochement avec les Chinois. Ben présentement, Trump est en Chine et il a l'air tout sauf fâché. On dit que c'est un voyage extraordinaire. Il s'entend comme le yin et le yang avec le président Xi.
Là, s'il faut que les États-Unis s'acoquinent à fond avec la Chine, d'après moi, ça va faire mal un peu peut-être au Canada dans les investissements. En tout cas, anyway, je sais pas, là, mais oui, tout le monde est heureux de se voir.
Ben, écoute, là, moi, je n'ai que du pouce. C'est sûr que c'est tout ça à travers aussi le filtre de nos médias.
Ah, Elon Musk est là aussi.
Ben, écoute, ça a l'air bien le fun, puis il l'a même invité. Il a invité M. Xi et sa femme à la Maison-Blanche le 24 septembre. bon, écoute, moi, j'ai hâte de voir ce qu'en pense notre analyste en géopolitique. Puis c'est ça aussi, être analyste en géopolitique, c'est être capable d'essayer de suivre la parade, puis des fois, c'est pas évident. Hein, Benjamin.
Oui, exactement. Merci de me recevoir, JC.
C'est toujours un plaisir, 7 jours sur Terre. Je ne l'ai pas plugué, mais j'imagine qu'il y aura des vidéos là-dessus, sur ce voyage-là et ce soudain rapprochement entre les États-Unis et la Chine.
Oui, rapprochement, je vais prendre ça avec un peu avec des pincettes, on va dire une détente, disons, parce qu'il y avait quand même depuis un certain moment beaucoup de tension entre les deux. Puis là, ce qu'on voit en ce moment, l'attitude de Trump, à mon avis, c'est vraiment ce que ça manifeste, c'est l'équilibre de la force entre les deux, la posture de l'un et de l'autre en matière de négociation, parce que, disons-le, ce voyage de Trump en Chine, il avait été prévu depuis des mois. En fait, c'était un planning qui devait être un peu la culmination de mois de diplomatie avec tous les autres du côté de Donald Trump. Le plan était assez clair. On voulait régler le problème du Canada, régler le problème de l'Europe, de la Corée du Sud, du Japon, faire des accords commerciaux avec tout le monde. Effectivement, tu as eu le Venezuela au plan militaire, tu as eu l'Iran ensuite, avec la guerre de 12 jours dans l'été, qui s'était relativement bien passé pour les Américains et les Israéliens. Fait que Trump avait vraiment, ça c'était depuis le départ, là, c'était assez clair. Dans son deuxième mandat, on voulait arriver avec une culmination sur un voyage en Chine qui se voulait vraiment le pic de son mandat, où là on sera en mesure de dire, tu vois ce qu'on a fait avec tous les autres, maintenant c'est ton tour, t'as plus aucun levier de négociation, tu peux plus nous éloigner de nos alliés, tu peux plus nous éloigner de nos partenaires, tu dois donc faire des concessions. Mm-hmm. Et ce voyage-là, il a été déplacé déjà au début de la guerre en Iran, déjà quand ça a commencé, parce que les Américains paniquaient à l'idée d'aller en Chine en position de faiblesse. Ils paniquaient à l'idée justement de gâcher ce voyage-là, qui, disons-le, est le premier en presque 10 ans d'un président américain en Chine. Ça n'existe plus, ce genre de contact à haut niveau, depuis très longtemps.
À moins que je me trompe, c'était Trump qui est allé.
Exactement. Ben exactement. Oui. C'était Trump aussi qui voulait vraiment, si on voulait, relancer les discussions avec la Chine. On a été vraiment, pendant son premier mandat, quand même, avec une guerre commerciale assez substantielle. Ensuite, tu as eu l'administration Biden. Bon, tu as eu toute la période de la COVID, etc., où la collaboration entre les deux était presque inexistante. Fait que tu comprends comment ce meeting-là était beaucoup plus qu'une visite à l'étranger. Mm. C'était vraiment, si on veut, un retour sur les 10 dernières années de politique où Trump voulait couronner ses quelques 10 ans, en fait, dans la vie politique américaine, de l'ère Trump, si on veut, pour venir concrétiser tout ça, mettre ça noir sur blanc avec une espèce de victoire diplomatique sur la Chine, sur Taïwan. On voulait demander à la Chine d'ouvrir le pays au commerce américain. Là, ce qu'on voit, c'est totalement l'inverse. C'est les Chinois qui contrôlent l'agenda totalement.
Ils sont en position de force, là, les Chinois, présentement. Parce que, tu sais, puis je sais que les plus fervents là, admirateurs de Trump vont toujours trouver une façon de le défendre ou de trouver... il fait ça, il joue la game, il fait une stratégie. Ouais. Sauf qu'il n'est pas différent tant que ça des autres. C'est-à-dire que oui, aux États-Unis, le gars bombe le torse, puis les Chinois, on va y mettre au pas, puis Taïwan, on lâche pas ça. Écoute, il est arrivé des choses dans les dernières semaines, entre autres, ces fameux navires chinois qui ont le droit de passer le détroit d'Hormuz. Ben, oui. Et le gars arrive là-bas, bon chien-chien, mange la gamelle, gentil-gentil. Mon Dieu, qu'on est bien en Chine. C'est quand même, on est dans... Je comprends que, comme tu l'expliques souvent, il y a une game à travers tout ça, puis il faut jouer
absolument.
La game.
Mais là, Trump se montre vraiment très docile quand il se montre face à Xi Jinping. Il faut le dire, là, c'est vraiment pas la même attitude. Et là, je fais juste souligner quelque chose. Il semble y avoir eu un énorme quid-pro-quo entre la Chine et les États-Unis hier, alors qu'on a vu passer pas un, pas deux, pas quatre, pas cinq, 30 navires chinois sont sortis du détroit d'Ormuz en direction de la Chine sans aucune pression ou contrainte américaine. Il semble y avoir eu un échange de coulisses où là, on a convenu que, garde, on va te faire une passe à la palette. Nous, on voudrait que le voyage se passe bien. C'était un geste de bonne foi, je pense, de la part des Américains.
Mais en retour, le président Xi, lui, il a dit, là, par exemple, Taïwan, tu touches pas à ça puis tu me laisses faire. Oui. Puis, t'sais, donc, lui, il a pas ramolli, là.
Ben, on les comprend aussi, parce qu'au-delà de ce qu'on se dit là, de dire que ça s'est mal passé pour les Américains, puis d'une manière, bon, ils n'ont pas l'appui de leurs alliés, ils n'ont pas une bonne position au Moyen-Orient, ils ont besoin de l'aide de la Chine, carrément, là, pour ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est un des éléments qui était mis de l'avant pour ce voyage-là. Trump nous dit non, j'ai pas besoin de l'aide de personne, mais la réalité, c'est que c'est un des éléments qui sont soulevés dans les discussions entre Trump et Xi Jinping. Si on veut impliquer la Chine un peu plus, là, essayer de motiver l'Iran à être sérieux dans les négociations. On surestime un peu, à mon avis, l'influence de la Chine sur l'Iran, mais il demeure que Trump se fie là-dessus. Et le point central, que moi, je pense que c'est ça l'éléphant dans la pièce, vraiment, là, c'est la décrédibilisation de la menace militaire américaine, qui est passée d'une espèce de écoute, là, c'est une puissance hégémonique qui avait la capacité de venir t'écraser. On aurait venu défendre Taïwan. C'était la crainte principale de la Chine. Là, toute cette espèce d'épouvantail est en train de s'effondrer de manière assez flagrante, où tu constates que un, les Américains n'ont pas vraiment la volonté ou la capacité d'endurer des pertes substantielles ou même juste des contraintes économiques dans l'éventualité d'un conflit. Trump est extrêmement frileux quand c'est le temps de voir les marchés boursiers bouger. Marché énergétique, c'est la même chose. Et bien, au bout de tout ça, tu constates aussi, s'ils ne sont pas en mesure de venir à bout de l'Iran, qui est une puissance intermédiaire, puis périphérique et régionale, tu ne seras certainement jamais en mesure de venir à bout de la Chine. Et ça, écoute, la semaine dernière, on avait des articles absolument spectaculaires, là, lunaires, qui sortaient dans le Wall Street Journal, dans le New York Times, des analyses qui proviennent des géopoliticiens chinois, des stratèges chinois, qui, eux, n'en croient pas leurs yeux, là, des implications de ce à quoi on assiste au Moyen-Orient. Eux comprennent maintenant que, écoute, Taïwan, elle n'a pas 3 à 6 mois de défense devant elle. Elle a peut-être 3 à 6 jours dans le meilleur des scénarios. Ensuite, on voit les Japonais autour, la Corée du Sud, tous les alliés régionaux des Américains qui ont entendu là, Trump répéter à tous les 4 jours qu'il est à veille de s'en aller, puis que Hormuz, vous vous occuperez de tout ça vous autres même. On n'a pas besoin, puis ils n'ont rien qu'à l'ouvrir aux autres mêmes. Écoute, si t'es le Japon, si t'es la Corée du Sud, si t'es l'Australie, si t'es un partenaire américain dans le Pacifique, c'est absolument terrorisant, puis c'est un wake-up call. Fait que pour la Chine, de leur côté, écoute, ce voyage-là, c'est vraiment le scénario idéal. C'est de recevoir des États-Unis humiliés qui ne sont pas en mesure de faire des demandes ou d'exiger des concessions sur quoi que ce soit. Et donc, nécessairement, bien, c'est la Chine qui est en position d'exiger des trucs. Puis tu parlais tantôt, tu t'as mis le doigt directement dessus. Là, c'est la Chine, elle a compris, elle veut son gros cadeau. Elle veut Taïwan. Ouais. C'est-à-dire, tu vas arrêter d'envoyer des armes à Taïwan, sans quoi c'est nous autres qui va te mettre sous contrainte, sous sanctions et sous embargo.
C'est presque une menace de guerre, là.
Bien, on a utilisé un terme ce matin en mandarin qui veut dire un peu un mélange entre conflit, affrontement, chicane, si on veut. Là, c'est pas directement une référence à un affrontement militaire, mais les Chinois ont ouvertement fait savoir que si on n'est pas capable de s'entendre sur Taïwan, on n'aura jamais une bonne relation ensemble. Pour nous, c'est un no-go, c'est un prérequis pour qu'on puisse avoir une relation ensemble. Fait que si ça bouge pas, bien, on préfère aussi bien vous laisser partir. Puis là, ce qu'on a vu aussi, il faut le dire, dans les 2 dernières années, c'est que la posture de négociation de la Chine avec, non pas les États-Unis, mais avec tous les autres, a considérablement changé pour le mieux. revient à la fin de la COVID ou même au beau milieu de la COVID, il n'y a plus personne qui voulait faire de la business avec la Chine. On disait, c'est une gang de tout croche. On vous montrait les images des wet markets. On disait, as-tu vu de quoi ça s'alimente? Ça n'a pas d'allure.
Puis ils soudaient les portes des blocs appartements pour que le monde parte. Puis les Ouïghours, il n'y a plus personne qui parle de ça.
Puis au-delà de ça, effectivement, tu as eu les Ouïghours, la question de Xinjiang, tu as eu effectivement la question des cachettes, puis du manque de transparence dans la gestion de la COVID, puis des cas où le message sous-jacent, là, c'était « on ne peut pas faire confiance à la Chine ». On a vu une désindustrialisation, plusieurs entreprises et corporations américaines, européennes, internationales qui ont sorti de la Chine pour aller ailleurs. Le Japon payait ces entreprises, non pas pour ramener leur QG au Japon, juste pour sortir de la Chine. Juste aller n'importe où ailleurs dans le monde. Fait que ça s'est produit pendant peut-être 2-3 ans. Et là, le scénario, c'est l'inverse qui est en train de se produire depuis peut-être le retour de Trump. Où ce qu'on voit, c'est qu'à cause de l'attitude belligérante, à cause de l'attitude un peu trop arrogante des Américains dans leurs échanges avec leurs alliés, bien, t'en as plein, comme le Canada, comme l'Europe, la France, l'Allemagne, tous ces acteurs-là regardent en direction de la Chine puis se disent... Dans le fond, c'est peut-être pas si pire, là.
Habituellement, on parle d'Europe, puis on parle d'Asie, puis on parle de ce qui se passe dans le monde, puis c'est bien, c'est l'objectif. Mais là, il faut parler du Canada. Le Canada se fait grêler par les Américains. Je me souviens encore de Andrew Lutnick qui nous passe un savon live en conférence de presse. Regardez, les Canadiens, les pas fiables, ils vont rentrer des produits chinois, ils veulent être amis avec les Chinois. Là... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il va-tu encore être fâché après nous autres ou finalement c'est legit la Chine?
Ben, moi, je pense que c'est un symbole sur tout le Canada. Là, tu le vois avec ce qu'on vient de décrire, justement, c'est que tout le monde est en train de prendre la même direction que le Canada, que ce soit, écoute, dans l'Asie même, tu as plusieurs pays qui commencent à avoir une détente avec la Chine.
On veut normaliser la Chine.
Ben, c'est surtout qu'ils réalisent, tu es pas mal moins baveux quand tu n'as pas la garantie de sécurité américaine. Tout le monde est baveux quand tu penses que tu as des B2 qui vont venir te défendre, puis tu vas avoir la puissance américaine en arrière de toi pour te backer. Si on t'enlève cette carte-là, hey, ta main est pas mal plus faible. Alors, d'un certain nombre de joueurs qui...
Cherche
à être un peu moins hostile vis-à-vis de la Chine, sans nécessairement la recruter comme nouveau mentor, mais ils demeurent qu'ils ont quand même l'intention d'avoir une relation plus productive, amicale. Déjà, tu vois des joueurs comme même l'Arabie Saoudite qui voient, le writing is on the wall, ils ont besoin d'avoir une relation amicale avec la Chine, sans quoi ils vont être embourbés dans le détroit d'Ormuz jusqu'à la fin de leur jour. Fait que tout ça... Fait que la Chine aujourd'hui est capable de regarder Trump et d'avoir vraiment, c'est à son tour d'avoir une arrogance puis une certitude dans son invincibilité au niveau diplomatique. Elle sait très bien que si demain matin, Trump s'en va puis décide de recruter tous ses alliés dans encore une grande guerre commerciale à coup de tarifs contre la Chine, il va avoir un grand nombre d'alliés total de zéro. Il n'y a personne qui va embarquer avec lui. Puis ça, ça change fondamentalement l'équilibre de la force.
Mais pensez pas non plus. Tu sais, des gens disent, oui, mais Trump, il n'a pas attaqué la Chine. Non, mais quand Trump dit qu'il veut contrôler toute l'Amérique, ça attaque la Chine. C'est la Chine veut contrôler le business. La Chine veut être la puissance numéro un. Donc, si les États-Unis prolifèrent, ils sont pas contents. Mais comme tu dis, présentement, on se pose de plus en plus la question qui est en position de force vraiment. Là, pendant des décennies, Absolument. On a pensé clairement que c'était les Américains. Là, on est moins certains et il faut que je t'amène aussi. Puis là, je regarde le temps, il va falloir terminer. Mais Taïwan doit filer petit dans ses shorts, là.
Ah, Taïwan file petit dans ses shorts, pas à peu près. Puis là, surtout depuis à peu près 2 ans, justement. Là, un an et demi, 2 ans, depuis le retour de Trump, mais même la dernière année de Biden, t'avais eu, là, pour relancer l'économie américaine, je sais pas si tu te souviens, cet énorme plan, le Green New Deal de Joe Biden. Ce que c'était, là, c'était pas tellement un Green New Deal que c'était un énorme bill pour financer le retour de l'industrie aux États-Unis, spécifiquement beaucoup aussi des usines de semi-conducteurs. En ce moment, l'essentiel, pour pas dire 100 % ou presque des semi-conducteurs avancés sont produits à Taïwan et c'est ce qui oblige les Américains à s'attacher au niveau sécuritaire à Taïwan. Là,
si on abandonne Taïwan à la Chine, je pense que dans quelques années, la Chine contrôle tout, là.
Ah, c'est terminé pour l'économie moderne. Oublie ça, là. On n'est plus capable de fabriquer un produit sophistiqué. C'est la chaîne d'approvisionnement au complet à base des terres rares, des métaux précieux qu'on utilise pour les semi-conducteurs vient déjà de Chine. Ça, c'est le premier problème. Mais encore plus que ça, la fabrication est à Taïwan, dans le cours arrière de la Chine que la Chine convoite. Fait que ce qu'on a commencé à faire depuis à peu près 3 ans, je te dirais, 2 ans et demi particulièrement, c'est de déployer du capital à coût de centaines de milliards de dollars au Texas, puis dans des États américains où on a beaucoup de place pour te construire ces énormes complexes de centres de données et de fabrication aussi de semi-conducteurs. Fait que là, tout le levier stratégique de Taïwan, on est en train de vider son enveloppe pour envoyer ça aux États-Unis. Naturellement, ce que ça implique, c'est que l'importance stratégique, tactique de Taïwan baisse en conséquence. Les Américains sont en train un peu d'enlever des œufs de ce panier-là pour les transformer, les transférer dans leur propre panier, beaucoup plus sécuritaire aux États-Unis. Fait que là, actuellement, Taïwan est dans une drôle de posture où elle est importante pour une raison, et cette raison-là est en train de disparaître de plus en plus à tous les jours.
Mmh. Le monde change. On a ça sous les yeux. Profitez du spectacle, puis on va suivre ça. Merci, Benjamin. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, JC. Bye-bye.
Salut, bye. Benjamin Tremblay, analyste géopolitique de 7 jours sur Terre. C'est une chaîne YouTube fort populaire. Vous pouvez trouver ça, vous abonner, puis il y a du stock. C'est beaucoup
vrai,
de stock.
C'est vrai que Taïwan, tu ne veux pas être Taïwan présentement.
Eux autres, ils doivent capoter. Pendant des décennies, c'est comme, on s'en sent qu'on a les States en arrière.
Ouais.
Là, ils jasent de ça, puis on dirait que la Chine est en train de prendre le galon, là.
Préparé à subir.
13h47, on revient.
Ouellette.
Vraiment, là, ça coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.